Cette édition spéciale de Programme Double est dédiée à la mémoire de l'actrice Olivia Ossi, qui est décédée le 27 décembre 2024 à l'âge de 73 ans à son domicile de Los Angeles en Californie, des suites d'une récidive d'un cancer du sein qui avait été diagnostiqué en 2008.
Trois, deux, un, ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le 5 juillet 1987, le poste de télévision NBC diffusera un film de 90 minutes qui devait, à l'origine, servir de pilote pour une nouvelle série intitulée Bates Motel. Ce film allait nous présenter Alex West, un jeune homme souffrant de troubles mentaux qui fut admis dans un asile après avoir tué son violent beau-père. Ce sera à cet endroit qu'il fera la connaissance d'un certain Norman Bates, avec qui il se liera d'amitié. Suite à la mort soudaine de ce dernier, Alex héritera de son hôtel. Après avoir été libéré, Alex se rendra donc au fameux Bates Motel afin de le réparer et d'en faire une entreprise respectable. Mais tôt après son arrivée, d'étranges événements se produiront. La chaîne de télévision américaine se tournera en direction du scénariste Richard Rothstein, qui fera ici ses débuts à titre de producteur exécutif et surtout réalisateur. Rothstein écrira son scénario en ignorant les événements s'étant déroulés dans les précédents films de la franchise, soit Psycho 2 en 1983 et Psycho 3 en 1986, faisant de son projet une suite directe au film original de 1960. Pour sa distribution, le réalisateur, dans la quarantaine, se tournera vers Burt Cort, que l'on avait vu dans Harold et Maude, Laurie Petty, Moses Gunn, Robert Picardo, Greg Henry, Jason Bateman, Kerry Keene, ainsi que Kurt Paul, dans le rôle de Norman Bates, Paul ayant auparavant doublé corporellement l'acteur Anthony Perkins pour Psycho 2 et Psycho 3. D'ailleurs, Perkins ne sera pas approché par le metteur en scène américain pour ce film, Rothstein ne bénéficiant que d'un tout petit budget alloué par la maison de production Universal Television Production. Ce sera l'excellent directeur de la photographie Bill Butler qui sera embauché pour mettre en image le téléfilm. Butler était surtout reconnu pour son travail exceptionnel sur les films à succès Jaws et One Flew Over the Cuckoo's Nest. Le film de 90 minutes sera rapidement tourné dans les studios de la Universal et, une fois monté, sera diffusé sur le poste de NBC. En raison des faibles audiences et des très mauvaises critiques en général, les exécutifs de la NBC abandonnèrent alors l'idée d'une série télé. Suite à cet échec, Richard Rothstein, qui décédera paisiblement à sa résidence de Los Angeles le 16 avril 2018, travaillera également sur la télésérie de HBO The Hitchhiker de 1983 jusqu'en 1991, mais sera surtout connu pour avoir écrit l'histoire originale du drame de science-fiction Universal Soldier en 1992. Quant au cascadeur-acteur Kurt Paul, qui avait interprété le personnage physique d'Homer dans Psycho 3, lorsque l'on ne verra pas, bien sûr, le visage de l'acteur Anthony Perkins, ce dernier apparaîtra une dernière fois dans la franchise en 1990, alors qu'il interpréta le rôle de Raymond Linette, un autre homme prétendant avoir tué sa mère dans le film Psycho 4, The Beginning, du metteur en scène Mick Garris. Il faudra attendre plus de 26 ans avant d'avoir une véritable série télé intitulée Bates Motel, série qui sera diffusée durant plus de 5 saisons entre 2013 et 2017 sur les ondes du poste de télévision A&E. Donc, préparez-vous à retourner dans votre hôtel favori et reprendre ainsi toutes vos mauvaises anciennes habitudes avec la supervision de votre mère ultra-contrôlante. Alors que je vous parlerai ici, dans ce spécial programme triple, des trois derniers films de la franchise Psycho, tout en faisant un léger survol de la télésérie diffusée au milieu des années 2010.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
It's our pleasure to welcome you to your friendly drive-in theater. For the information of those who are attending the drive-in for the first time, the following hints will make you feel at home and add to your enjoyment. Firstly, if you've not already done so, remove the speaker from the stand and place it in your car. Secondly, adjust the volume control to suit your requirements. Right for loud, left for soft. We must issue this warning. No attempt should be made to disconnect the speaker. To do so, we'll immediately register a red light in our control room. Our ultra-modern snack bar is now open and ready to serve you. How about fresh fillets of fish with chips and salad? Tender steak with eggs, chips, and salad. A big cup of hot chips or fish and chips. Thick, crunchy hamburger. Giant-size hot dogs laced with sauce or mustard. Banana fritters with rich, full cream. Steaming hot coffee. Icy orange or lemon drink. Smooth, creamy ice cream. And a great range of sweets and chocolates. Our snack bar is open for service. One final word. Before leaving, replace the speaker on its stand. Then drive forward and move to your left. You must never reverse out of your position. Thanks, everyone. We trust you have a very pleasant evening.
Norman!
Yes, Mother?
What is this?
It's pizza, Mother.
Half cheese and half pepperoni?
Half for you and half for me. Just the way we like it.
So, someone delivered this pizza. You know what happens when we have visitors.
It's not delivery, Mother.
Don't lie to me, boy!
No, Mother. It's DiGiorno.
Our new half and half pizza keeps everyone in the family happy. It's not delivery. It's DiGiorno.
Such a good boy.
Yes, Mother.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime.
Signé par 743 personnes s'opposant à la libération de Norman Bates. Madame, je vous en prie, asseyez-vous. C'est au ministère public que revient la charge de préserver la société.
Norman a été disculpé, car il a agi en état de démence.
Mais vous ne comprenez donc pas que vous avez relâché un tueur, un fou dans le...
Asseyez-vous, madame.
Il n'est que trop évident que nos lois protègent les criminels, pas les victimes.
Norman Bates est considéré comme ayant retrouvé la raison et doit être immédiatement libéré.
22 ans après son internement, Norman Bates rentre chez lui.
J'ai un motel, et il n'est pas trop loin d'ici. Et je ne vois pas pourquoi vous ne passeriez pas la nuit dans une des chambres encore libres.
Bonne nuit, Marie.
Et le cauchemar recommence.
Qui êtes-vous? Je vous dis que ma mère est morte. Je vous dis qu'il y avait une note là, sur le tourniquet. Une note de ma mère, qui est morte.
Norman, ça ne peut pas être votre mère. Ça ne peut être que quelqu'un d'autre.
J'ai confiance en elle. Jamais elle ne voudrait me faire le moindre mal. Non! Elle vous tuera. Je sais qu'elle vous tuera.
Derrière toi!
Non, je refuse de faire ça. Tu ne peux pas m'obliger.
La tuer? 22 ans plus tard, Norman Bates est de retour. Psychose 2. Le cauchemar recommence.
Psycho 2 ou Psychose 2 est un drame d'horreur qui a été distribué par les studios Universal Pictures le 3 juin 1983. Ce film américain d'une durée de 113 minutes a coûté moins de 5 millions de dollars à produire et a amassé plus de 34,7 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, eh bien, on y retrouve le metteur en scène australien Richard Franklin, lui qui nous avait donné les films Road Game, Link, Patrick, la version de 1978 et FX numéro 2. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Hilton A. Green, lui qui avait produit les films 16 Candles, Home Alone 3 et Psycho 3. À ses côtés se trouve Bernard Schwartz, ce producteur américain qui avait produit les films Coal Miner's Daughter ainsi que St. Elmo's Fire. Au poste de scénariste, eh bien, on y retrouve le scénariste américain Tom Holland, lui qui avait écrit les scénarios de Class of 84, la version de 1985 de Fright Night, ainsi que Clock and Dagger. Dans la distribution, on y retrouve Anthony Perkins, Vera Miles, Meg Tilly, Robert Loggia, Dennis Franz, Hugh Gillen, Robert Allen Browney, Claudia Breyer, Lee Garlington, Jim Carroll, Ben Hardigan, Tim Mayer et Oz Perkins. 22 ans après avoir été enfermé dans un asile psychiatrique pour folie meurtrière, Norman Bates, jugé sain d'esprit, est libéré et décide de retourner vivre dans la vieille maison située près de l'hôtel qu'il exploitait jadis. Cependant, dès son arrivée, d'étranges disparitions commencent à survenir dans les alentours de l'établissement. Suite à la mort d'Alfred Hitchcock le 29 avril 1980 des suites d'une insuffisance rénale à sa résidence de Bel Air en Californie, l'écrivain Robert Bloch publiera deux années plus tard, via la maison d'édition Warner Books, un roman intitulé Psycho 2. Cette suite, de son livre culte de 1959, se voulait une satire des films slasher hollywoodiens. N'étant pas très attirés par le concept, les exécutifs des studios Universal décideront alors de créer leur propre version vers le début de 1981, une version qui serait alors réalisée directement pour la télévision. En août de cette même année, le film devait alors être produit par Doc Erickson pour la compagnie Picture Striking Corporation. Ce sera Gary Travis et Michael January qui écriront un scénario qui sera alors intitulé Psycho 2, The Return of Norman Bates. Ce projet devait permettre à l'acteur Anthony Perkins de faire ses débuts comme réalisateur. Cependant, Perkins et l'actrice Vera Miles, qui fut également approchée pour reprendre son rôle de Lila Crane, n'aimeront pas le scénario et refuseront alors de faire partie de ce projet dont le tournage principal était provisoirement prévu pour le début de 1983. Erickson quittera donc la production et ce sera alors le producteur américain Bernard Schwartz qui sera alors embauché pour mener à bien le projet. L'un des premiers cinéastes pressentis par Schwartz pour réaliser cette suite du classique de 1960 ne sera nul autre que le réalisateur américain Brian De Palma, car ce dernier admirait beaucoup Hitchcock, reprenant son style dans des films tels que Carrie en 1976, The Fury en 1978 et Dressed to Kill en 1980. Cependant, De Palma refusera l'opportunité, ne se voyant nullement réaliser un film pour la télévision. Ce sera finalement le réalisateur Richard Franklin qui sera choisi. Ce dernier venait d'arriver à Hollywood après plusieurs productions dans son Australie natale, notamment le drame fantastique Patrick en 1978 et le trailer Road Games en 1980, cette dernière réalisation mettant en vedette la jeune actrice Jamie Lee Curtis, fille de la comédienne Janet Leigh, qui fut la toute première victime de Norman Bates au cinéma en 1960. Fan dévoué de Hitchcock, Franklin avait correspondu avec le réalisateur alors qu'il était encore étudiant en cinéma à l'USC et le convaincra de venir donner une conférence à son école et organisera même une projection du long-métrage Rope qu'Hitchcock lui-même avait réalisé en 1948. Ce lien d'amitié avec le metteur en scène, Franklin sera même invité par ce dernier à visiter les plateaux de tournage de ses films Topaz en 1969 et Family Plot en 1976. Après son embauche, Franklin, qui avait vu Psycho la première fois à l'âge de 12 ans, recrutera l'acteur devenu écrivain Tom Holland pour élaborer un scénario. Le réalisateur australien demandera au scénariste d'étudier en détail chacun des films d'Hitchcock afin de se préparer. Malgré plusieurs avertissements de son entourage, qui considérait ce travail comme un projet qui pourrait mettre fin à sa jeune carrière, Holland acceptera tout de même le défi et se mettra rapidement à l'écriture. Ce sera par la suite Hilton Green, assistant réalisateur du premier Psycho, qui sera contacté par les exécutifs de la Universal afin de lui demander s'il souhaiterait être coproducteur sur le nouveau long-métrage. Green acceptera et lorsque le scénario sera terminé, contactera la fille de Hitchcock, Patricia, et lui enverra la version finale du script pour approbation. Craignant qu'Hitchcock n'approuverait pas des suites de ses films s'il était encore en vie, Green sera surpris lorsque Patricia Hitchcock lui donnera sa bénédiction, cette dernière affirmant que son père aurait adoré ce qu'elle avait lu sur papier. Une fois cette bénédiction reçue, la production approchera de nouveau l'acteur Anthony Perkins ainsi que l'actrice Vera Miles. Miles acceptera de revenir suite à la lecture du scénario. Cependant, Perkins, lui, était encore réticent à reprendre le rôle de Norman Bates, ce qui forcera alors les producteurs à l'éventualité de remplacer l'acteur par un autre comédien. Christopher Walken fera partie de ceux envisagés, mais finalement, suite à la lecture du script, Perkins acceptera de revenir. Ce sera à ce moment que les exécutifs de la Universal prendront alors la décision de transformer le projet de téléfilm et d'envoyer celui-ci sur le grand écran. Le directeur de la photographie, Dean Cundey, qui avait surtout travaillé avec le réalisateur John Carpenter sur les films Halloween et The Fog, sera embauché sur la production. Pour la distribution, l'acteur John Gavin sera également approché pour reprendre son personnage de Sam Loomis, mais malheureusement, ce dernier n'était pas disponible en raison de ses obligations en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Mexique, emploi qui lui fut donné par le président des États-Unis de cette époque, soit Ronald Reagan. La décision sera alors prise de tout simplement éliminer son personnage. À l'origine, Franklin désirait que Jamie Lee Curtis incarne Mary, la fille de Lila, mais cette dernière désirait s'éloigner du monde de l'horreur, préférant travailler sur le projet de Trading Places du réalisateur américain John Landis. Ce sera finalement la jeune actrice de 22 ans, Meg Tilly, qui obtiendra le rôle. Tilly s'était rendue à New York afin de devenir danseuse professionnelle, mais sa carrière sera brutalement interrompue en 1979 lorsque son partenaire de danse la laissera tomber sur le sol, entraînant une grave blessure au dos. En 1980, elle fera alors ses débuts à l'écran en tant que danseuse dans le drame musical d'Alan Parker, Fame, puis apparaîtra dans deux autres films en 1982, soit Tex et One Dark Night. Robert Loggia, Dennis Franz et Hugh Gillen compléteront la distribution de base. À l'origine, Franklin désirait également que les acteurs John McIntyre et Simon Oakland reprennent leurs rôles respectifs du shérif Chambers et du docteur Richmond. Cependant, en raison de l'indisponibilité de ceux-ci, ces deux personnages seront réécrits en tant que nouveaux personnages. Pour Oakland, ce dernier était atteint d'un cancer du côlon et décédera à Cathedral City en Californie le 29 août 1983, le lendemain de ses 68 ans et deux mois et demi avant la première de Psycho 2 au cinéma. Pour terminer, l'actrice Virginia Gregg sera également de retour, cette dernière reprenant de nouveau la voix glaciale de Madame Bates. Ce sera l'actrice Claudia Breyer qui sera choisie pour interpréter Emma Spool, ce qui deviendra son dernier rôle en carrière au cinéma. Breyer, qui avait surtout eu une carrière à la télévision, décédera le 16 juin 2011 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 93 ans. Et donc, après plus de 22 ans d'attente, le tournage de Psycho 2 débutera le 30 juin 1982 au studio d'Universal à Universal City, en Californie, sur le Soundstage 24. En raison d'une refonte du backlot d'Universal Studios, la maison des Bates du film de 1960 fut retirée de son site d'origine. Avant le tournage, Green et Franklin la feront déplacer dans un endroit à flanc de colline que le décorateur John W. Corso a étalonné pour reproduire le monticule original, puis a fait vieillir la maison de plus de 22 ans. Corso a également reproduit le Bates Motel au pied de la colline en utilisant des photographies et des plans du film de 1960. Le concepteur d'effets optiques Albert Whitlock complétera le travail de la façade du motel ainsi que l'enseigne au néon portant le nom de l'établissement. Whitlock avait déjà travaillé sur de nombreux films d'Hitchcock, dont The Man Who Knew Too Much en 1934 et The Birds en 1963. Les scénographes John W. Corso, Julie Fletcher et Jennifer Polito auront alors la lourde tâche afin de trouver des accessoires et des meubles se rapprochant de ceux se trouvant dans la maison des Bates en 1960. Un certain nombre d'objets seront retrouvés dans le département d'accessoires des studios Universal, notamment la porte d'entrée de la maison originale, des lavabos, deux lampes Tiffany, la chouette et le corbeau de Norman, une statue de Cupidon, une paire de mains jointes coulées en bronze, la cheminée de la chambre, le lit victorien, une armoire, la glissière élimée de 40 pieds de long pour l'escalier et la tristement célèbre pomme de douche du film de 1960 qui, malheureusement, sera volée durant la pré-production. La production sera quelque peu problématique, plusieurs drames en coulisses survenant, mais qui n'affecteront pas le résultat final à l'écran. L'une de ces situations problématiques sera la relation entre Anthony Perkins et la jeune Meg Tilly. L'actrice n'avait pas vu le Psycho original avant de commencer son travail sur la production et ne comprenait pas pourquoi tant d'attention était accordée par la presse à Anthony Perkins sur le plateau de tournage. Après que l'acteur ait découvert que certains membres de la distribution et de l'équipe le trouvaient un peu difficile sur le plateau de tournage et qu'il avait entendu les commentaires de Tilly, il deviendra alors difficile pour l'actrice de travailler avec l'acteur, ce dernier refusant alors de lui parler. Même qu'à un certain moment, Perkins demandera que Tilly soit remplacée à la mi-chemin de la production, mais son souhait, heureusement, ne sera pas exaucé. Les relations entre Tilly et Franklin seront également difficiles et la production tellement éprouvante pour elle que cette dernière envisagera même alors de quitter la profession et ne sera pas présente à la première du film, déclarant des années plus tard que Psycho 2 fut l'une des pires expériences de travail qu'elle avait vécues dans sa vie. Cependant, elle avouera que ce film fut une excellente expérience de formation pour elle et remerciera le scénariste Tom Holland de sa gentillesse envers elle sur le plateau de tournage. Franklin et Holland désiraient que ce film soit un hommage à Alfred Hitchcock et à sa carrière. Pour ce faire, ils ont ajouté divers clins d'œil personnels, dont le plus important demeure la scène où Mary et Norman entrent pour la première fois dans la chambre de mère. Avant que ne soient allumées les lumières, l'on peut apercevoir la silhouette d'Alfred Hitchcock sur le mur à l'extrême droite de l'écran. Anthony Perkins amènera ses fils, Osgood et Elvis, sur le plateau pendant la production. Osgood fera même ses débuts sur le grand écran à titre d'acteur dans ce film, interprétant ici le rôle du jeune Norman Bates. Âgé seulement de 9 ans à cette époque, le jeune Osgood, qui changera de nom plus tard pour Oz Perkins, deviendra acteur et aura des rôles dans des films tels que Six Degrees of Separation, Wolf et Legally Blonde, avant de connaître le succès en tant qu'écrivain et réalisateur, notamment avec I Am the Pretty Things That Lives in the House en 2016 et Long Legs en 2024. De plus, Anthony Perkins jouera lui-même du piano dans sa scène avec Tilly, ce dernier étant non seulement un excellent pianiste, mais également un professeur de cet instrument durant ses temps libres. Afin de garder le secret sur les derniers moments du long-métrage, les dernières pages du scénario ne seront distribuées aux acteurs et à l'équipe de tournage que le dernier jour de la production, incluant Anthony Perkins. Seul l'acteur Robert Loggia obtiendra l'autorisation de lire les dernières pages du script sous la supervision d'un représentant des studios de Universal. Le plan final de Norman, debout devant sa résidence, sera utilisé comme carte de Noël pour divers membres de l'équipe. Ce sera le rédacteur en chef Andrew London qui eut l'idée d'utiliser la photo de la carte de Noël comme affiche de film et qui créera également le slogan de l'affiche, concept que n'aimera vraiment pas le metteur en scène Richard Franklin. Le tournage prendra fin le 13 août 1982. Ce sera alors le compositeur américain John Williams qui fut à l'origine envisagé pour faire la musique du film, mais il sera finalement décidé de faire appel au compositeur Jerry Goldsmith. Goldsmith était un ami de longue date du compositeur de la musique du film original Bernard Herrmann, qui était décédé des suites d'une crise cardiaque le 24 décembre 1975 à l'âge de 64 ans. Durant sa période de création, Goldsmith écrira un thème pour le personnage de Norman Bates, thème qui sera rejeté pour le film, mais qu'il recyclera pour le deuxième segment du film Twilight Zone The Movie, distribué en salle cette même année. Psycho 2 sortira en salle le 3 juin 1983 dans plus de 1488 écrans et obtiendra des recettes de plus de 8,3 millions de dollars durant son premier week-end, juste en arrière du troisième Star Wars Return of the Jedi, qui était sorti en salle la semaine précédente. Au final, le film amassera plus de 34,7 millions de dollars sur le continent nord-américain, obtenant ainsi la 21e place des films les plus lucratifs de 1983. Face à ce succès, les exécutifs des studios Universal seront intéressés à une autre suite. Petite anecdote amusante, la ville de Furville, vue lorsque Lila Loomis est suivie par le Dr. Raymond, est enfin Courthouse Square, probablement mieux connu pour son apparition dans Gremlins en 1984 et également Back to the Future en 1985, ce bout de petite ville situé également sur le backlot d'Universal Studios. Patricia Alma Hitchcock O'Connell, la fille unique d'Alfred Hitchcock, décédera dans son sommeil le 9 août 2021 de cause naturelle chez elle à Thousand Oaks en Californie. Elle sera actrice dans plusieurs productions de son père jusqu'en 1960, son apparition la plus importante étant dans Strangers on a Train en 1951. L'acteur Robert Loggia décédera de la maladie d'Alzheimer le 4 décembre 2015 à son domicile du quartier de Brentwood à Los Angeles à l'âge de 85 ans. Pour le compositeur Jerry Goldsmith, ce dernier décédera d'un cancer du côlon à sa résidence de Beverly Hills, en Californie, le 21 juillet 2004, à l'âge de 75 ans. Finalement, le réalisateur Richard Franklin quittera Hollywood au début des années 1990 et retournera en Australie, où il décédera des suites d'un cancer de la prostate le 11 juillet 2007, 4 jours seulement avant son 59e anniversaire. Du côté des points positifs, eh bien, Psycho 2 est un excellent exemple de ce que devrait être une suite d'un film à succès, c'est-à-dire créer sa propre histoire tout en restant fidèle à l'original et en apportant plus de profondeur à l'histoire du personnage principal. De plus, le réalisateur a le courage de traiter de son sujet d'une façon beaucoup plus psychologique et réaliste, alors que ce dernier aurait pu tout simplement nous donner ici un simple slasher film à la Friday the 13th. La distribution est également ici excellente, tout spécialement Anthony Perkins, qui nous donne ici un Norman Bates bégayant, insécure et surtout possédant encore, en quelque sorte, la maturité d'un enfant qui cherche continuellement à se créer une autonomie adulte, ce que son entourage s'efforce de l'empêcher de faire. De plus, Perkins réussit ici un coup de maître, c'est-à-dire que le spectateur prend pour Norman un meurtrier dont le destin tragique nous attriste par moments. De plus, la chimie entre Perkins et Tilly est juste sublime, les deux acteurs montrant ici un grand talent, sachant aujourd'hui tous les problèmes en arrière-scène qui ne paraissent nullement ici. La mise en scène de Franklin est solide et originale, tout en étant respectueuse de celle de Hitchcock. Franklin n'a pas peur de se servir de son visuel afin de donner plus de solidité à son histoire, se servant de plans tout croche par moment afin de montrer la descente aux enfers de Norman Bates. De plus, ce dernier nous donne une atmosphère sombre de suspense qui sait garder l'intérêt du spectateur, ce dernier restant accroché à son siège tout en cherchant continuellement l'identité du véritable assassin. La direction photo est superbe ici, tout comme certains jeux de caméra qui sont tout simplement époustouflants. Du côté musical, le compositeur Jerry Goldsmith nous donne une partition solide, remplie d'émotions, l'une des meilleures de sa carrière. Au final, Psycho 2 est un véritable délice, une suite nettement supérieure de ce qu'on aurait été porté d'avoir en temps normal, faisant de cette suite l'une des meilleures dans le monde des franchises cinématographiques. Cependant, du côté des points négatifs, eh bien, l'une des rares faiblesses du film se trouve dans son premier 15 minutes où celui-ci est prisonnier de l'emprise du film original et nous donne une séquence de tribunal faible et typique de ce genre de suite, tout comme l'arrivée de Norman dans son hôtel où les vieux souvenirs lui reviennent dessus trop vite, nous faisant croire que peut-être que Norman n'était tout simplement pas prêt à retourner chez lui. D'ailleurs, même la musique de Goldsmith est quelque peu over the top pour la première séquence où Norman rentre chez lui, celle-ci étant mal utilisée alors qu'elle aurait dû être beaucoup moins flamboyante. Du côté de la musique, eh bien, comme je le disais tantôt, c'est le compositeur américain Jerry Goldsmith qui s'occupe de réaliser la partition musicale ici du film, lui qui avait travaillé sur les films Logan's Run, Outland, Inner Space et Star Trek The Motion Pictures. On peut trouver le film sur vinyle et cassette 4 pistes, quelque chose qui était sorti sous l'étiquette MCA en 1983. On a également le CD de ce même vinyle qui, lui, est sorti sous l'étiquette Varese Saraband en 2000. Et finalement, on a le Expanded Edition de Psycho 2, un CD qui est sorti sous l'étiquette Intrada le 1er avril 2014.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
After the death of Norman, the motel has been taken over by a new owner who doesn't know what he's let himself in for. Strange things are bound to happen. Bates Motel is a chilling, supernatural thriller.
It's 27 years later.
I, Norman Bates, being of sound mind.
Knowing the history of that place, I'd be out of there at the first full moon.
Bates Motel has come back to life.
Looking that crazy.
And history will repeat itself.
Like most people, they don't go around seeing stuff that's not there.
One more time.
What are you doing here?
One last time. Bates Motel.
Intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
We own a motel, Norman Bates.
This is our chance to start over. It's all gonna be good. You'll see. I've been waiting for you.
Mom, come on, sit down.
Just eat your dinner.
Mother! You said you wanted me to have a life here. This is how you have one.
Norman, I'm just looking out for you. As long as we're together, then nothing bad can really happen. Right, Norman?
Right, Mother.
What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me?
I love you, Norman.
I love you too, Mom.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime.
Rated X.
Psychose 3, joué et réalisé par Anthony Perkins.
Norman a eu assez de drames dans sa vie, mais laissez-le tranquille.
Vous n'allez pas l'emmener pour l'interroger et vérifier ce qu'il dit?
Foutez-lui la paix, vous m'entendez?
Norman Bates est guéri. Il a retrouvé son équilibre mental. Mais Maman Bates, elle, n'est pas guérie. Pas guérie du tout.
Norman, c'est toi?
Ah! Oui, mère, c'est moi. Allô, Motel Bates?
Tu vas t'ennuyer à crever ici, mais à part ça, il t'arrivera rien.
Ce genre de choses ne pouvait pas arriver dans mon motel. Ça vous détruit les meilleures réputations.
Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi?
Vous me rappelez quelqu'un.
Mère!
Je savais que Bates était bizarroïde, mais je me doutais pas qu'il perdait ses billes.
Norman?
Je te tuerai pour sa mère. Hein? Tu n'as rien dans le ventre, fillette. Il est parfaitement naturel qu'un fils aime sa mère.
Psycho 3, ou Psychose 3, est un drame d'horreur qui a été distribué par les studios Universal Pictures le 12 juillet 1986. Ce film américain d'une durée de 93 minutes a coûté plus de 8,4 millions de dollars à produire et a amassé plus de 14,4 millions de dollars sur le continent nord-américain. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Anthony Perkins, ce réalisateur qui nous avait donné le film, bien sûr, Psycho 3, mais également le film Lucky Stiff. Hilton A. Green s'occupe du poste de producteur ici, lui qui avait produit les films 16 Candles, Home Alone 2 et Psycho 2. Du côté de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Charles Edward Pogg qui, lui, avait écrit les scénarios de Dragonheart et du film de 1986, The Fly. Dans la distribution, on y retrouve Anthony Perkins, Diana Scarwid, Jeff Fahey, Roberta Maxwell, Hugh Gillen, Robert Allen Browne, Gary Bayer, Lee Garlington, Donovan Scott, Karen Hensel, Jack Murdoch et Kat Shea. Ayant repris en main la gérance de son motel, situé près de la vieille maison où il habite seul, un meurtrier s'éprend d'une ancienne religieuse qui a fui son couvent à la suite de troubles émotionnels et qui a tenté de s'enlever la vie dans une des chambres de son établissement. Après le succès modéré au box-office de Psycho 2, les exécutifs des studios Universal donneront le feu vert pour une suite. Rapidement, l'acteur Anthony Perkins sera contacté pour confirmer sa présence sur ce troisième volet, ce dernier acceptant rapidement, permettant ainsi au projet de débuter la pré-production en visant une date de sortie en juillet 1986. Les exécutifs étaient si confiants qu'ils offriront à Perkins l'opportunité d'assumer la double fonction d'acteur principal et de réalisateur sur ce projet. Ne possédant pas les connaissances techniques nécessaires, Perkins demandera au réalisateur australien Richard Franklin si ce dernier serait intéressé à co-réaliser le long-métrage avec lui, mais Franklin refusera, ce dernier étant déjà engagé sur un autre long-métrage intitulé Link, qui sortira en salle en 1986. Le metteur en scène Steve Miner se verra également proposer de co-réaliser aux côtés de Perkins, mais ce dernier refusera également. Hilton Green sera de nouveau embauché pour être le producteur de ce nouveau projet et engagera le scénariste Charles Edward Pogue pour l'écriture du long-métrage. Pogue avait jusque-là travaillé sur deux téléfilms et sera plus tard connu pour la scénarisation des films The Flight en 1986, Dragonheart en 1996 et Call the Conqueror en 1997. La principale inspiration d'Anthony Perkins pour le style de son long-métrage viendra du film Blood Simple, réalisé en 1984 par les frères Coen. Avant le début du tournage, Perkins a amené tous les acteurs et l'équipe de production à une projection privée du drame policier. De plus, Perkins désirait tourner son film en noir et blanc, mais les exécutifs des studios Universal mettront rapidement fin à cette idée. Perkins et Pogue développeront une multitude d'idées pour ce troisième volet, le jeune réalisateur appelant même son écrivain tard dans la nuit pour lui faire part de ses concepts. Dans l'intrigue du scénario original, le personnage de Dwayne devait être le tueur, ce dernier s'étant intentionnellement présenté au Bates Motel à cause de son obsession pour Norman Bates. Maureen devait alors être dans cette histoire une psychologue névrosée qui était venue au motel pour remplacer le docteur Raymond du film précédent et de s'occuper de Norman, Pogue ayant même eu l'intention de confier le rôle de Maureen à l'actrice Janet Leigh, comédienne qui avait interprété la toute première victime de Norman dans le film original de 1960. Malheureusement pour les deux hommes, les exécutifs de Universal rejetteront toutes ces idées, arguant que Bates devait être le tueur. Alors que le scénario subissait des retouches, Perkins s'attaquera à sa distribution. Il débutera en faisant appel à l'actrice Virginia Gregg pour recréer de nouveau la voix de mère. Gregg, qui avait travaillé avec Hitchcock sur de nombreux épisodes d'Alfred Hitchcock Presents entre 1955 et 1965, avait obtenu le rôle non crédité de la voix de mère en 1960, rôle pour lequel elle passa plus d'une heure en studio pour l'enregistrement de ses répliques. Étant de retour pour Psycho 2, Perkins tenait absolument à ce que la femme de 70 ans revienne de nouveau. Il demandera alors sa présence sur le plateau pendant plus d'une semaine pour que celle-ci joue ses conversations avec Norman en direct afin de l'aider dans la crédibilité de sa prestation. Il s'agira malheureusement ici de son dernier rôle à l'écran, l'actrice décédant d'un cancer du poumon le 15 septembre 1986 à Encino, en Californie, soit deux mois après la sortie en salle de Psycho 3. Hugh Gillen, Robert Alan Brownie et Lee Garlington seront les seuls acteurs à reprendre le rôle de Psycho 2. L'actrice Kat Shea obtiendra le rôle de Patsy parce qu'elle lira ses répliques dans un buisson à l'extérieur lors de l'audition. Ce sera le cascadeur Kurt Paul qui interprétera le personnage de mère, sauf lorsque le personnage sera interprété par Perkins sur l'écran alors qu'il était déguisé en celle-ci. Pour le personnage de la journaliste Tracy Venable, celle-ci sera vieillie suite à l'embauche de la comédienne Roberta Maxwell. Finalement, ce sera la screen queen Brinky Stevens qui sera embauchée pour être la doublure nue de l'actrice Diana Scarwid pour sa scène de douche. Le tournage principal débutera le 28 juin 1985 à Los Angeles avec un budget de plus de 8 millions de dollars. Certaines scènes du long-métrage seront tournées à Sierra Madre, en Californie, site qui servira également au tournage d'autres films d'horreur tels que The Fog en 1980, Halloween 1, 2 et 3, Invasion of the Body Snatchers, la version de 1956, Return of the Living Dead 2 en 1988 et Bird Box en 2018. Avant de débuter la production, Perkins étudiera en long et en large l'aspect technique de la réalisation afin de pouvoir exprimer à son directeur de la photographie, Bruce Surtees, ce qu'il désirait. Surtees testera Perkins au départ, mais se rendra rapidement compte que ce dernier savait ce qu'il voulait visuellement et créera pour lui un look très contrasté au niveau de la palette de couleurs pour le long métrage. Afin de débuter sa toute première réalisation, Perkins chronométra son scénario à la seconde près afin de s'assurer de ne pas trop filmer inutilement ses séquences. Durant la production, le jeune réalisateur s'entendra très bien avec tous les membres de son équipe technique ainsi qu'avec sa distribution, permettant ainsi d'obtenir une atmosphère détendue sur le plateau de tournage. Mais une situation difficile surviendra lors de la production lorsque l'actrice Juliette Cummins fera une blague involontaire sur l'homosexualité de Perkins. L'acteur-réalisateur sera alors tenté de la renvoyer sur le champ, mais l'actrice se fera pardonner lorsque cette dernière refusera l'utilisation d'une cascadeuse pour sa scène où Dwayne jette Red hors de la chambre du motel, cette dernière réalisant elle-même sa propre cascade. Pour la scène préliminaire entre Duke et Red, Perkins désirait à l'origine que l'acteur Jeff Fahey soit complètement nu, mais Fahey, se sentant trop mal à l'aise, fut autorisé à tenir deux lampes pour se couvrir partiellement. De plus, un incident surviendra durant la séquence où Norman frappe Duke avec sa guitare, Perkins frappant accidentellement Fahey à la tête, blessant ce dernier et le forçant alors à se rendre à l'hôpital pour recevoir des points de suture. Le tournage de base se terminera le 10 septembre 1985. Une fois le premier montage terminé, les exécutifs de la Universal estimeront que le film avait besoin d'une meilleure fin avec plus de rebondissements, ce qui forcera alors Perkins à retourner la scène finale. De plus, le réalisateur avait fait son film avec une ambiance d'humour noir, alors que les exécutifs désiraient un film d'horreur beaucoup plus traditionnel, lui demandant alors que soient ajoutées des séquences beaucoup plus sanglantes. Pendant ce temps, Perkins, lui, désirait prendre la musique de son long-métrage dans une direction plus contemporaine que celle de Jerry Goldsmith, dont la partition était beaucoup trop instrumentale pour lui dans Psycho 2. Carter Burnwell, qui avait fait ses débuts au cinéma en réalisant la musique du premier film des frères Coen, Blood Simple, avait par la suite passé du temps au Japon à faire de l'animation pour le film Landsman. De retour à New York, ce dernier avait repris son travail quotidien à la tête du Digital Sound Lab du New York Institute of Technology et continuait à jouer dans différents groupes de musique, n'ayant aucun projet particulier pour la création de musique de film. Alors que le musicien-chanteur venait d'investir dans un loft de Hell's Kitchen, ce dernier recevra une lettre de Burt Berman, le vice-président des affaires créatives musicales chez Universal Pictures, dans lequel il apprendra qu'Anthony Perkins désirait obtenir ses services pour la création de la musique de sa toute première réalisation, soit Psycho 3. Burwell, qui n'avait aucune expérience dans l'écriture de musique sur papier et dans l'embauche de musiciens, déménagera alors dans un appartement meublé dans un complexe de North Hollywood. Après que les exécutifs de la Universal aient suggéré que le film contienne des chansons pop afin que celles-ci puissent être commercialisées sur MTV, Burwell a composé et interprété des chansons avec ses collègues Stanton, Miranda et Steve Bray. Après qu'Universal ait affirmé que les chansons n'étaient pas suffisamment rentables, Burwell a tenté de créer une chanson avec le leader du groupe Dongo Bongo, mais cette idée sera également rejetée. Finalement, ces mêmes exécutifs accepteront de laisser Burwell prendre un motif pour sa partition qu'il avait composée et le développer en une chanson pop électronique instrumentale intitulée Scream of Love, chanson qui sera alors coécrite par le saxophoniste de jazz David Sanborn. Psycho 3 devait sortir initialement en salle le 14 février 1986, mais sera repoussé au 2 juillet de cette même année, étant alors projeté dans plus de 1408 cinémas. Le drame d'horreur amassera plus de 3,2 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture et atteindra au final un box-office nord-américain de 14,4 millions de dollars bruts, devenant ainsi le film le moins lucratif de la franchise et n'atteignant que la 61e position au box-office nord-américain de l'année 1986. Une fois la production terminée, le scénariste Charles Edward Pogue et Anthony Perkins ont été invités à proposer une idée pour un quatrième film de la franchise Psycho. Cependant, suite à l'échec du long-métrage au box-office, le projet d'un autre film sera alors abandonné. Les acteurs Robert Alan Browning et Hugh Claire Gillen Jr., qui eurent des rôles dans les films Psycho 2 et Psycho 3, nous quitteront, Browning décédant à sa résidence de Laguna Woods en Californie en juin 2018 à l'âge de 86 ans, alors que Gillen décédera à San Diego le 4 mai 2004 à l'âge de 78 ans. Finalement, le directeur de la photographie Bruce Surtees, qui travaillera durant sa carrière sur des films tels que Dirty Harry, Lenny, Beverly Hills Cop, Pearl Rider et Risky Business, décédera à Carmel, en Californie, en 2012, des suites de complications reliées au diabète. Du côté des points forts, eh bien, Psycho 3 est un film qui souffre notamment du manque d'expérience de son réalisateur. Cependant, Perkins parvient ici à créer un slasher différent des deux autres films de la franchise, se démarquant par une direction photo haute en couleurs et surtout une trame musicale des plus intrigantes et hypnotisantes. L'humour noir aurait pu être plus intéressant ici si celui-ci n'était pas si « over the top ». Mais n'empêche que ce troisième volet contient plus de séquences sanglantes que les deux autres longs-métrages de la franchise, ce qui saura satisfaire quelque peu les amateurs du genre. Perkins fait tout de même plusieurs choix courageux dans sa mise en scène et son traitement du film, notamment au niveau de son visuel et du jeu de ses comédiens. Mais du côté des points négatifs, eh bien, le scénario qui détruit par moments la mythologie de la franchise ne contient vraiment rien de neuf et se contente de recycler certains effets chocs tout en nous donnant ici des répliques quelque peu simplistes. La distribution est inégale ici, même Perkins paraît quelque peu perdu en Norman Bates. La mise en scène apparaît plus appliquée qu'efficace, Perkins effectuant ici une réalisation plus expérimentale et par moments artificielle de ce que l'on s'attendait d'avoir suite à la qualité du film précédent. De plus, l'aspect religieux est beaucoup trop présent ici, ce qui enlève quelque peu l'intérêt du film, cet aspect étant véritablement mal développé. Malheureusement, Psycho 3 est tout ce que l'on avait peur que Psycho 2 serait lors de l'annonce de sa création. Le film contient plus de violence et de nudité gratuite que les autres volets de cette franchise et surtout un montage qui, par moments, nous donne l'impression d'écouter un film fait pour être distribué directement pour le format vidéo. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Carter Burwell qui s'occupe ici de réaliser la partition musicale. Burwell qui avait réalisé les trames sonores des films Blood Simple, Raising Arizona, California et Mystery Alaska. La trame sonore de Psycho 3 fut sortie en cassette 4 pistes ainsi qu'en vinyle en 1986 sous l'étiquette MCA Record. Et nous aurons également droit à Psycho 3 The Expanded Edition, un CD qui sortira le 12 janvier 2021 sous l'étiquette Intrada.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon.
Do what mother tells me, but I never could eat oatmeal until I found oatmeal Raisin Crisp. Now this is oatmeal made my way. Crispy flakes with oatmeal, a bit of brown sugar, and loaded with raisins and almonds. Oatmeal Raisin Crisp. It's scary how good it tastes.
Oatmeal Crisp, Oatmeal Raisin Crisp.
Look, mother, I'm eating my oatmeal.
Now that's a good boy.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
more out of life. Go out to a movie.
In 1960, Alfred Hitchcock created a film that is perhaps the most terrifying thriller of all time. Psycho. Now, come answers to the questions audiences have been asking for over 30 years. Psycho 4, The Beginning.
This is Fran Ambrose on KTK, Talk of the Town.
I call because the focus of your show tonight is what makes boys kill their mothers.
Are you saying you killed your mother?
I killed some other women, too.
Want to tell us about your mother, how she drove you to become what you became?
She'd be sweet one moment, and then she'd suddenly turn mean. Don't you have any respect for the dead?
How did it all start?
What are you doing here?
Shh. We're gonna wake up your mother.
Kill her.
I can't. No.
Then I'll do it for you.
What makes Norman Bates kill?
Look at yourself, boy. Ha, girl. Yes, girl. No. Mama's little girl.
No, girl.
How'd you kill your mother?
Slowly.
This be the end of Norman Bates.
Oh, I've killed before. And now I'm gonna have to do it again.
Or is it only the beginning? Psycho 4, The Beginning. Anthony Perkins stars with Olivia Hussey, CCH Pounder, and Henry Thomas as young Norman Bates. Psycho 4, The Beginning.
Psycho 4, The Beginning, ou Psychose 4, est un drame d'horreur qui a été produit par les studios Universal Pictures et qui a été projeté sur les ondes de Showtime le 10 novembre 1990. Ce film américain d'une durée de 96 minutes a coûté 4 millions de dollars à produire et plus de 10 millions de personnes seront devant leurs écrans pour écouter la première du film sur Showtime. Sur le poste de réalisateur, eh bien, on y retrouve le metteur en scène américain Mick Garris, lui qui avait réalisé les films Sleepwalkers, Riding the Bullet et Nightmare Cinema. Au poste de producteur, on y retrouve les producteurs Les Mayfield, ce producteur américain qui avait produit les films Flubber, la version de 1997, ainsi que Miracle on 34th Street, la version de 1994, et le producteur américain George Zaloom, lui qui avait produit les films Encino Man et Heart of Darkness. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Joseph Stefanou qui s'est occupé ici de l'écriture, lui qui avait écrit les scénarios de The Naked Edge, The Kindred et du film de 1960, Psycho. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Anthony Perkins, Henry Thomas, Olivia Hussey, Alice Hirson, CCH Pounder, Warren Frost, Donna Mitchell, Thomas Schuster, Sharon Camille, Bobby Evers, Doreen Calmers, John Landis et Kurt Paul. Durant son émission de radio quotidienne, une animatrice est contactée par un meurtrier en série, apparemment réhabilité, qui lui partage sa vie auprès d'une mère veuve schizophrène, ce qui l'a amené à l'assassiner, et surtout un terrible secret qui risque de raviver ses instincts meurtriers. Anthony Perkins proposera de réaliser lui-même un autre volet de la franchise et s'associera de nouveau avec le scénariste Charles Edward Pogue, avec qui il avait travaillé sur le volet précédent. Les deux hommes écriront alors un synopsis qui transformait la maison et le motel de Norman en une attraction touristique pour des week-ends d'horreur. Après que Bates se soit échappé de l'établissement psychiatrique où il était retenu, ce dernier retournera à sa résidence et sera alors embauché pour interpréter son propre rôle durant toute une fin de semaine. Malheureusement pour Perkins, vu la mauvaise réception de Psycho 3 et le fait que le nouveau concept était un long-métrage encore plus axé sur la comédie noire que le film précédent, les exécutifs de la Universal s'opposeront au projet. Cependant, l'idée d'avoir un film de la franchise tourné dans leur tout nouveau parc thématique à Orlando, en Floride, était une mine d'or publicitaire aux yeux des dirigeants des studios Universal, en particulier si le tournage se déroulait devant les touristes durant leur visite. De plus, durant les années 80 et 90, surviendra l'avènement de la vidéo domestique et des films destinés à la télévision, diffusés directement dans les foyers via un poste de câble payant. À cette époque, il n'existait que quatre chaînes, soit HBO, Cinemax, Showtime et The Movie Channel. Les studios Universal Pictures avaient un accord de télévision par câble payant signé avec Showtime Network Incorporated et le studio décidera alors d'utiliser la popularité de cette chaîne afin de présenter une nouvelle suite de la franchise, une direction plus économique afin de continuer cette dite franchise. Le scénariste du film original, Joseph Stefano, sera alors approché pour écrire ce quatrième volet. N'étant point un fan du second et troisième chapitre de la franchise, Stefano décidera alors d'ignorer ces deux longs-métrages et de n'utiliser que le film de 1960 comme source. Même que durant la pré-production, il sera même question de montrer la jeunesse de Norman à l'aide de flashbacks qui auraient été filmés en noir et blanc, une idée rapidement abandonnée par les exécutifs des studios de production. Anthony Perkins voulait que le metteur en scène Noel Black, qui l'avait dirigé dans Pretty Poison, réalise le film, mais les exécutifs de Universal Pictures rejetèrent cette idée, préférant faire confiance au jeune scénariste et réalisateur Mick Garris, qui sera donc engagé pour mettre en image ce nouveau long-métrage avec un budget alloué de plus de 4 millions de dollars. Anthony Perkins sera alors approché pour reprendre son rôle de Norman, mais dans une version adulte. Suite à cela, l'actrice Olivia Hussey, que l'on avait vue dans des films tels que Jesus of Nazareth et la version de 1974 de Black Christmas, se verra proposer directement le rôle de Madame Bates, sans même avoir à passer une audition, cette dernière acceptant sur le champ. Mais du côté du jeune Norman Bates, ce sera le comédien Henry Thomas qui avait interprété le personnage de Elliot dans le film de science-fiction E.T. The Extraterrestrial qui sera choisi. Dès son embauche, Thomas sera contacté par Perkins qui voudra le rencontrer afin de discuter du rôle et ainsi s'assurer de donner les grandes lignes au jeune comédien. Le tournage de Psycho 4, The Beginning, débutera le 4 juin 1990 et se terminera le 1er juillet de cette même année. Le tournage aura lieu au Universal Studios Florida, à Orlando, en Floride. Pour cette production, la façade du Bates Motel et de la résidence des Bates furent recréées dans le parc thématique. Cette production devait initialement être tournée avant l'ouverture du parc, mais en raison de retard et de la volonté du studio d'avoir une production de haut niveau sur le terrain lors de son ouverture, le film sera finalement tourné alors que le parc était ouvert, permettant ainsi aux nombreux touristes de regarder le tournage de plusieurs scènes dans le motel ainsi que dans la maison située à l'arrière. Ce film sera d'ailleurs le premier long-métrage qui fut tourné dans le complexe Universal Studios Florida à Orlando. Afin de rendre hommage au premier film de la série, Garris reproduira la chambre de mer presque comme celle de 1960, à l'exception de la salle de bain et d'un deuxième garde-robe. Cependant, le lit de Norma Bates sera le même que celui utilisé dans le film original. Malheureusement, ce sera durant le tournage de ce film que l'acteur-réalisateur Anthony Perkins recevra son diagnostic de zéro positif alors qu'il s'était rendu dans une clinique pour un examen médical de routine. Perkins dut recevoir son traitement pendant toute la durée de cette production. Cela amènera plusieurs frictions entre le réalisateur et l'acteur, ce dernier se lançant alors dans de longues et interminables discussions devant l'équipe, testant ainsi son réalisateur afin de s'assurer qu'aucun choix n'était fait de façon gratuite, et ce, durant les quelques 24 jours de tournage. Lors de la première scène de meurtre filmée, Henry Thomas fut tellement impliqué dans son rôle que ce dernier se blessera à la main avec un couteau, une blessure dont il porte encore à ce jour la cicatrice. De plus, la robe que portait le jeune acteur lorsqu'il était habillé en mère sera la même que celle qui fut utilisée sur le tournage de Psycho 3. Pour la séquence où Norman déchire une pomme en deux, cette dernière fut improvisée par Anthony Perkins. En effet, dans le scénario original, Norman était initialement censé prendre un couteau de boucher et l'enfoncer dans la pomme, mais Perkins trouvait cela trop ordinaire et décidera alors d'improviser cette réaction de frustration de Norman. Pour l'actrice Sharon Camille, cette dernière tournera sa première et seule scène de nu de sa carrière pour ce film. Cependant, bien qu'elle eût un gros problème à réaliser cette scène, ce sera vraiment la réaction de son petit ami de l'époque qui sera choqué par la situation à un point tel qu'il mettra fin à leur relation. Une fois le tournage terminé, ce sera le compositeur Graham Revell qui sera embauché pour réaliser la partition musicale du long-métrage. Revell utilisera tout de même le thème du premier film créé par le compositeur Bernard Herrmann et composera une œuvre musicale se rapprochant énormément du long-métrage de 1960. Une fois le montage terminé, Psycho 4 sera alors diffusé en première sur la chaîne Showtime aux États-Unis le 10 novembre 1990 dans le cadre d'une mini-série rétrospective spéciale de Psycho. Ce programme spécial sera animé et présenté par l'actrice Janet Leigh qui avait joué Marion Crane dans le film d'Alfred Hitchcock. Suite à la première projection du film, Anthony Perkins qualifiera ce nouveau volet comme étant le meilleur de toutes les suites de Psycho. Le film obtiendra une nomination au Saturn Award comme meilleure réalisation pour un film ou une série faite pour la télévision. Le 5 juillet 1987, le téléfilm Bates Motel fut produit par Universal Television et sera diffusé sur NBC. Il devait s'agir ici d'un pilote pour une série télévisée proposée qui comportait des éléments surnaturels. Cependant, la mauvaise réception du public et des médias firent en sorte que la série ne sera pas reprise par le poste de télévision américain. Il faudra donc attendre jusqu'en 2012 avant de voir les dirigeants de la chaîne américaine A&E envisager de développer une nouvelle série télévisée qui sera également intitulée Bates Motel et qui servirait de prequel contemporain au film d'Alfred Hitchcock. Le premier scénario sera alors écrit par Anthony Cipriano. Carlton Cuse et Kerry Herron seront par la suite embauchés en tant que producteurs exécutifs et scénaristes en chef, les deux s'inspirant fortement de la série télé américaine du début des années 1990, Twin Peaks, pour l'ambiance de ce nouvel univers. Après avoir lu les premiers scénarios, les dirigeants de A&E donneront le feu vert à la série Bates Motel pour une première saison de plus de 10 épisodes. Le choix de la distribution débutera à l'automne 2012 et ce sera Vera Farmiga qui sera la première à être embauchée, cette dernière jouant le rôle principal de Norma Bates. Par la suite, ce sera elle-même qui suggérera le jeune acteur Freddie Highmore pour le rôle de Norman Bates. Il sera alors embauché en septembre, suivi de Max Thieriot, Nicola Peltz, Nestor Carbonell et Olivia Cooke qui compléteront alors la distribution principale de cette première saison. Un des scénaristes de la série, Bill Ballas, était atteint de fibrose kystique, ce qui inspira le personnage d'Emma DeCody, qui sera également atteinte de cette maladie. Alors que Freddie Highmore étudiait à Cambridge pendant le tournage des premières saisons, l'équipe de pré-production se devra d'arranger les dates de tournage autour des études du jeune homme de 21 ans. La série, visant à rendre hommage au réalisateur de Psycho, Alfred Hitchcock, Universal a gracieusement fourni les plans de la tristement célèbre maison. Une réplique de la coque extérieure de cette dernière, ainsi que du motel, seront alors construits à 45 minutes au sud-est du centre-ville de Vancouver, alors que les intérieurs seront bâtis dans un studio de la ville canadienne. Ce sera la troisième fois qu'une réplique de la maison originale de Psycho sera construite, la première réplique étant construite pour Psycho 4 The Beginning en 1990 et la seconde réplique ayant été construite à Winnemucca, au Nevada en 2010 pour célébrer le 50e anniversaire de Psycho. La production de cette première saison aura lieu dans plusieurs endroits de la région métropolitaine de Vancouver, notamment à Stiverstone, Coquitlam, Horseshoe Bay, West Vancouver et Fort Langley. Le tournage de la première saison se terminera en février 2013, un mois après l'embauche du compositeur américain Chris Bacon, qui aura alors la lourde responsabilité de composer la musique de la série. Bacon fit ses débuts comme compositeur de musique de film en 2007 et était responsable de la musique des longs-métrages Source Code, Space Chimps et Alpha et Omega. Lors de sa première diffusion, la série battra des records d'audience pour une série dramatique originale sur A&E. La diffusion attira plus de 3,4 millions de téléspectateurs. Dans l'ensemble, la première saison attira en moyenne plus de 2,7 millions de téléspectateurs, ce qui forcera alors les dirigeants de A&E de renouveler Bates Motel pour une seconde saison de 10 épisodes. La série obtiendra par la suite plus de 24 nominations à travers divers événements, Vera Farmiga remportant le prix de la meilleure interprétation au Saturn Award, alors que 3 autres prix seront remis à la série au People's Choice Award, soit un pour la meilleure série dramatique, un pour le meilleur acteur, soit Freddie Highmore, et finalement, un pour la meilleure actrice, soit Vera Farmiga. Le tournage principal de la seconde saison débutera le 24 juillet 2013 et se terminera le 6 novembre, le tournage en extérieur restant à terminer pour la saison. Dans l'ensemble, la deuxième saison attira en moyenne plus de 2,3 millions de téléspectateurs, forçant à nouveau les dirigeants de A&E à renouveler la série pour une troisième saison en avril 2014. Lors de sa deuxième saison, Bates Motel sera nominé pour 16 prix à travers divers événements, mais malheureusement n'en remportera aucun. Le tournage principal de la saison 3 débutera le 20 octobre 2014 à Vancouver et dans ses environs et se terminera le 1er mars 2015. La diffusion de cette troisième saison attirera en moyenne plus de 1,8 million de téléspectateurs. La décision sera alors prise par les dirigeants de A&E de renouveler la série pour 2 saisons additionnelles, la cinquième étant alors annoncée comme étant la dernière, principalement due par la baisse de l'auditoire, mais également au fait que les producteurs de la série décideront de compléter l'histoire de Norman en seulement 5 saisons. Bates Motel sera alors nominé pour 10 prix, mais n'en remportera qu'un seul, soit pour la meilleure actrice, prix qui sera de nouveau alloué à la comédienne Vera Farmiga. Après avoir vu son auditoire fondre à moins de 1,4 million d'auditeurs lors de la diffusion de la quatrième saison, durant laquelle la série sera nominée pour 17 prix divers et obtiendra 3 prix additionnels au People's Choice Award, la décision sera prise par les producteurs de refaire le film de 1960 comme histoire de fond pour cette dernière saison. Ce sera alors la chanteuse et actrice Rihanna qui sera choisie pour interpréter le rôle iconique de Marion Crane. À cause de son horaire très chargé, la jeune femme devra tourner toutes ses séquences en moins de 5 jours. Dans cette ultime saison, l'acteur Freddie Highmore obtiendra la chance d'écrire l'histoire de l'épisode Inséparable, en plus de réaliser lui-même l'épisode de Buddy. Les acteurs Max Thiero et Nestor Carbonell obtiendront également la chance de réaliser eux-mêmes un épisode de cette dernière saison, offre qui sera également faite à l'actrice Vera Farmiga, qui refusera car cette dernière ne pouvait obtenir le contrôle final sur le montage final de l'épisode. La production de cette ultime saison débutera le 16 septembre 2016 et les dernières séquences surviendront dans la plus grande émotivité le 31 janvier 2017. Au lendemain de la fin de la production, la réplique de la maison des Bates et du motel seront démolies. À la fin de la série, encore 1,3 million d'auditeurs auront été fidèles à Bates Motel, le programme n'ayant cherché qu'une seule nomination aux Critics' Choice Television Awards. Au final, la télésérie amassera seulement 5 prix sur un total de plus de 62 nominations dans diverses catégories à travers divers événements. Pour le scénariste américain Joseph William Stefano, ce dernier décédera des suites d'une violente crise cardiaque au Los Robles Hospital à Thousand Oaks, en Californie, le 25 août 2006, à l'âge de 84 ans. Pour le producteur Hilton Green, qui a été impliqué dans tous les films de la franchise, ce dernier décédera paisiblement à sa résidence de Pasadena, en Californie, le 2 octobre 2013, également à l'âge de 84 ans. Finalement, Psycho 4 marquera la toute dernière apparition de l'acteur Anthony Perkins dans la franchise, avant sa mort le 12 septembre 1992, des suites d'une pneumonie reliée au sida. Il n'était âgé que de 60 ans. Marié à l'actrice Berintia Berenson, ce ne sera que quelques semaines avant sa mort qu'il rendra publique sa maladie. Quant à la veuve de Perkins, Berenson, cette dernière décédera 19 ans plus tard, lors des fameux attentats du 11 septembre, alors qu'elle était passager du vol 11 d'American Airlines, un des 2 avions qui s'écrasèrent dans le World Trade Center. Norman Bates est classé le 2e plus grand méchant sur la liste des 100 meilleurs héros et méchants du cinéma de l'American Film Institute, tout juste derrière Hannibal Lecter et tout juste devant Darth Vader. Sa phrase « A boy's best friend is his mother » se classe, elle, au 56e rang sur la liste des 100 plus grandes citations de films de la AFI. En 2008, Norman Bates fut sélectionné par la revue Empire comme l'un des 100 plus grands personnages de l'histoire du cinéma, alors qu'en 2009, le magazine Total Film publiera sa liste des 150 plus grandes performances de tous les temps, classant la performance de Perkins dans Psycho à la 27e place. Bates s'est également classé numéro 4 sur la liste des 100 plus grands personnages de films de tous les temps du magazine Première. Au final, Norman Bates doit être reconnu comme étant le personnage responsable de la création du slasher film au cinéma. Du côté des points positifs, Psycho 4 est un téléfilm supérieur à ce que l'on peut s'attendre habituellement à ce type de produit et possède ici une assez bonne mise en scène technique de son jeune réalisateur Mick Garris, qui deviendra plus tard un des meilleurs réalisateurs pour les adaptations télévisuelles et cinématographiques des romans de Stephen King. Le metteur en scène travaille également très bien son visuel avec une direction photo superbe de Rodney Charters, remplie de couleurs vives et chaudes, se rapprochant étonnamment de Psycho 3 à ce niveau. CCH Pounder et Anthony Perkins volent la vedette ici au niveau de la distribution, qui est quelque peu décevante, le travail avec les acteurs ne semblant pas être la priorité pour le metteur en scène. Malgré le fait que le scénariste semble vouloir oublier les volets précédents, le spectateur ne sera pas dérangé par cela et sera capable tout de même d'écouter ce film comme étant la conclusion de la quadrilogie. Cependant, du côté des points négatifs, eh bien, du côté de la distribution, Olivia Hussey fait de l'overacting alors que Henry Thomas semble complètement perdu ici, étant loin d'égaler la prestance d'Anthony Perkins. Le scénario de Joseph Stefano est décevant ici et très traditionnel, voulant choquer, mais en même temps ayant peur d'aller trop loin. Pour sa conclusion, eh bien, le drame psychologique au rythme lent se transforme soudainement et obtient un autre tempo, nous donnant même l'impression d'écouter un film totalement différent de ce qui nous a été de voir depuis le début. Donc, on a l'impression d'écouter deux types de films en un seul. C'est quand même quelque chose qui est un quelque peu dérangeant. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur néo-zélandais Graham Revell qui s'occupe ici de réaliser la partition musicale. Lui qui avait réalisé les musiques des films Dead Calm, The Crow, la version de 1994, Strange Days et From Dusk Till Dawn. Malheureusement, il n'existe aucun CD ou vinyle de la trame sonore, celle-ci n'ayant pas été commercialisée sur le marché. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Psycho 2 4, j'y vais avec une cote 3. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma à l'époque avait coté Psycho 2 18 ans. Aujourd'hui, le film est coté 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour quelques scènes de violence. Du côté de Psycho 3, eh bien, Mediafilm a coté le film 5, j'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, le film est coté 13 ans indicatif, j'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et ici de nudité. Pour Psycho 4, eh bien, le film est coté 5 par Mediafilm. Moi, j'y vais avec une cote 4. Je pense que c'est un film qui est un petit peu supérieur à ce qu'on est habitué de voir. Puis la mise en scène de Mick Garris est quand même assez intéressante. Au niveau de l'âge et du contenu, le film est coté 13 ans indicatif. Moi, j'y vais également avec une cote 14 ans pour de la violence, mais aussi pour un contenu mature. Maintenant, si on parle de Bates Motel, le film de 87, eh bien, du côté des points négatifs de Bates Motel, c'est un téléfilm qui se sert du nom d'une franchise pour se faire un nom, mais qui oublie totalement la raison d'être de celui-ci, transformant l'histoire d'un meurtrier en série et de sa relation douteuse avec sa mère en une vulgaire histoire de fantôme. C'est dommage parce que l'idée de départ aurait pu être fort intéressante, soit celle d'un homme qui se fait remettre un hôtel ayant appartenu à un meurtrier en série et les problèmes de ce dernier de faire fonctionner cet hôtel alors que les résidents de la ville à proximité veulent tout simplement la destruction de l'établissement. Malgré cela, le premier 70 minutes se laisse bien regarder malgré sa médiocrité, principalement due à un certain humour noir. Mais du côté des points négatifs, eh bien, Bates Motel est un film qui est à éviter pour les véritables amateurs de la franchise Psycho. Ce téléfilm se veut une suite directe au long-métrage de 1960 et il ne tient pas compte des autres films de la série. La distribution est d'une simplicité aberrante, les acteurs semblant être totalement laissés à eux-mêmes et faisant souvent de l'overacting. De plus, le réalisateur manque totalement d'imagination, sa mise en scène devenant par moments tellement théâtrale que cela en devient risible, et ça, c'est sans compter sur les multiples erreurs de continuité du long-métrage. Finalement, le scénario est totalement stupide, transformant l'hôtel de Bates Motel en un véritable croisé entre Fantasy Island et The Twilight Zone. L'histoire manque totalement d'intérêt et de logique, ce qui n'aide véritablement pas au spectacle. Au niveau de la cote de Mediafilm, bien Bates Motel était coté 7 par Mediafilm. Moi, j'y vais quand même avec une cote 6 parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. Moi, j'y vais avec un âge de 14 ans pour des scènes de violence. Maintenant, on va y aller avec la série télé Bates Motel qui a été présentée de 2013 jusqu'en 2017. Du côté des points positifs, eh bien, la principale attraction de cette nouvelle adaptation série télé est sans contredit l'actrice Vera Farmiga, qui vole ici tout simplement la vedette dans le rôle de Norma Bates. Les scénaristes réussissent à bien renouveler cette œuvre classique avec une écriture intelligente, utilisant à merveille la manipulation psychologique d'une mère ultra-protectrice et la déchéance graduelle de son enfant, le tout mis dans une ambiance plus actuelle. Bien que difficile à accepter dans le rôle de Norman, Freddie Highmore se tire bien d'affaire et devient de plus en plus convaincant dans le rôle-titre au fur et à mesure que la série avance. L'évolution inconfortable de la relation mère-fils entre Norma et Norman est très bien amenée et les producteurs prennent le temps de bien transposer celui-ci sur le petit écran jusqu'à son dénouement tragique dans la quatrième saison, permettant à ceux-ci de réinventer le film de 1960 d'Alfred Hitchcock dans la saison 5 avec une série de retournements inattendus et une conclusion des plus haletantes. Le visuel est également bien travaillé ici, nous donnant une qualité de production bien au-delà de ce qui se fait habituellement dans ce type de produit, les showrunners s'assurant de bien respecter cet univers iconique. Le dernier gros point positif ici est que cette série comprend un début, un milieu et une fin qui ne laissera pas l'auditoire sur sa faim, faisant de ce Bates Motel l'une des plus belles choses à avoir été réalisées dans cette franchise. Mais, du côté des points négatifs, la plus grosse difficulté d'une série comme celle-là, c'est de créer un univers complexe qui permettra aux différents écrivains de pouvoir étendre l'histoire sur plusieurs saisons. Cela nous donnera donc des intrigues totalement inutiles et ennuyantes qui enlèvent un peu du charme à la série. Dès que l'on sort de la relation entre Norma et Norman, l'intérêt perd un peu de son efficacité. L'on sent nettement l'inspiration Twin Peaks ici, où les Bates semblent vivre dans une ville tranquille où le crime organisé semble s'être installé au grand désarroi de nos héros qui sont forcés de confronter cet univers brutal au lieu de s'occuper de leur hôtel. Les personnages secondaires sont par moments ici sans intérêt et les créateurs donnent un demi-frère à Norman Bates, personnage qui n'a aucune véritable utilité, sauf dans les derniers milles de cette série. Même le personnage d'Emma, qui est interprété admirablement ici par l'actrice Olivia Cooke, est par moments tout simplement inutile et irritant, les scénaristes donnant par moments l'impression que l'on ne sait tout simplement pas quoi faire avec le personnage. Demeure qu'au final, Bates Motel est une série à voir absolument, surtout si vous êtes un amateur de la franchise. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm n'a pas coté cette série télé puisque c'est une série de télé, ce n'est pas un film. Moi, personnellement, je cote la série télé 4, donc quelque chose qui s'écoute très bien. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, j'y vais avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et un langage qui est vulgaire. Au niveau maintenant de la trame sonore musicale, eh bien, du côté de Bates Motel, la télésérie, nous avons le vinyle qui est sorti sous l'étiquette I Am 8-Bit. Ça a été fait en mars 2017. Vous avez également le CD qui est sorti sur l'étiquette Varese Saraband le 25 août 2014. Et finalement, vous avez une autre version qui, elle, est sortie le 28 octobre 2016 sous l'étiquette Lakeshore Records. Ça, c'était également en CD. Maintenant, il n'existe aucune trame sonore pour le film, ou le téléfilm plutôt, de Bates Motel, qui, lui, a été fait en 1987. Du côté des DVD, eh bien, vous avez, bien sûr, Psycho 2, Psycho 3 et Psycho 4, qui existe en DVD et en Blu-ray du côté de Psycho 2 et de Psycho 3. Les deux films sont faits du côté du français et de l'anglais. Cependant, du côté de Psycho 4, eh bien, vous n'avez que la version française. Tous les films sont inclus en, bien sûr, DVD ainsi que le Blu-ray disc. Vous avez également le coffret très intéressant à voir qui est le Psycho 2, Psycho 3 et Psycho 4 The Beginning Triple Features. Ça inclut bien sûr des versions bilingues du deuxième et du troisième film. Vous avez également le coffret complet des quatre films de Psycho. On parle bien sûr de Psycho 1 jusqu'à Psycho 4. On ne se concentre ici que sur le film de 1960 en titre de film original et non pas le film de 98. Puis, vous avez également ce qu'on appelle le Four Movie Midnight Marathon Pack, qui est sorti uniquement en DVD. Là-dedans, vous avez le film Psycho 2, Psycho 3, Psycho 4 et Bates Motel, le téléfilm de 1987, qui faisait pour sa première fois sa sortie en DVD. Pour maintenant Bates Motel, le film de 1987, bien, il y a une version qui a été faite en DVD seule, qui est bien sûr juste en anglais. Et vous avez la série télé, que vous avez toutes les saisons indépendantes qui sont sorties en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Et vous avez également le coffret de The Complete Collection, qui lui, malheureusement, n'inclut que la version anglaise, mais qui est également faite en DVD et en Blu-ray.
Coming soon to a theater near you.
I'm getting out of this jungle dump. I'm fed up to here with this treasure hunt business. Yeah. Ira, you miserable worm, you lied to me. You said she was a city girl, out of her element. Just get her in the map and bring him back. Piece of cake. Piece of cake, my butt. What went wrong? I'll tell you what went wrong. First of all, guess who else is here? You're dead right, Solo.
What?
Secondly, she's got herself a partner. We like shooting holes in everything.
The minimum price for taking a stranded woman to a telephone is $400.
$375 in traveler's checks?
Not a deal.
That's just the beginning of what's going on down here. There's nothing you can say that'll make me go back into that hellhole. Don't bring that up, Ira. Ira, stop it! All right, I'll go back. But this time, you're coming with me.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage. and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. As you leave the theater, folks, please be careful. Don't let this happen to your car. Be sure to remove the speaker before you leave. If you should accidentally pull a speaker loose, please turn it in at our snack bar or box office. Thank you. Too late now, double feature.